au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Cette émission au fil des pages voudrait vous présenter un journal, mais pas un journal intime, non, le journal conciliaire du cardinal Henri de Lubac, jésuite, qui fut membre de l'Académie des sciences morales et politiques jusqu'en 1991 et qui est l'un des plus éminents théologiens du XXe siècle. Et c'est son successeur à l'Académie, élu en 1993, Jacques de la Rosière, président de l'Association internationale cardinal Henri de Lubac, qui a bien voulu venir nous présenter cette édition exceptionnelle des Carnets du Concile, édition publiée par les éditions du CERF en cette fin d'année 2007. Monsieur de la Rosière, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Concile Vatican II s'est ouvert, je le rappelle, en 1962 et ses quatre sessions ont duré jusqu'en 1965, mais elles avaient été préparées par des commissions dès l'année 60. Pourquoi donc ces carnets du Concile du père de Lubac ne sont-ils publiés qu'en 2007, c'est-à-dire presque 40 ans après la fin du Concile ?
Parce que pendant longtemps, on n'a pas pensé à les éditer. Et c'est Monsieur Loïc Figoureux, qui est un chercheur et un professeur à Lille, qui a eu l'idée de faire une thèse sur les carnets du cardinal de Lubac. Et il a donc énormément travaillé sur ce document pour l'éclairer de notes et le rendre intelligible.
Il y a en effet de très nombreuses notes et je dois dire qu'elles sont tout à fait utiles et très éclairantes. En effet, le père de Lubac lui-même avait-il souhaité de son vivant que ces carnets, c'est-à-dire ces notes, il y a 6 cahiers je crois, qu'il avait prise lors des sessions préparatoires et lors des sessions du Concile, avait-il souhaité qu'elle soit publiée ?
Il y a une annotation du père de Lubac qui indique qu'il ne souhaite pas qu'on les publie, mais il y a eu un certain nombre de raisons pour lesquelles nous avons, avec le père provincial des jésuites de France, le père Dumortier, pensé qu'en fin de compte, il valait mieux les publier. Je crois même que vous aviez signalé cet avertissement qui explique les raisons de notre publication.
Oui, en effet, vous dites, alors je vous cite dans cet avertissement, « parce que l'existence des carnets du Concile était connue ». Et que des citations en étaient publiées et parce qu'ils pouvaient, ces carnets, contribuer à une meilleure connaissance des travaux conciliaires, il a semblé à l'Association internationale cardinal Henri de Lubac et au provincial de France de la Compagnie de Jésus, le père François-Xavier de Dumortier, que l'on pouvait autoriser la parution de ce texte tout en attirant l'attention du lecteur sur la volonté du cardinal. Donc l'association, au fond, a beaucoup réfléchi, beaucoup débattu
sur ce
point.
Tout à fait, oui. Oui, l'association est d'ailleurs la province. Et ça n'a pas été une décision très facile, mais en fin de compte, si on regarde le soin avec lequel le cardinal de Lubac a retouché le manuscrit, enfin, qui a été imprimé, qui a été tapé à la machine, il y est revenu à plusieurs reprises. C'est un texte qui est, en fin de compte, très achevé. Non, je crois que le souci du père de Lubac à l'origine était que ces notes étaient des notes prises un peu au jour le jour.
Sur le vif.
Elles ne constituaient pas une synthèse avec une vision totale de ce qu'étaient les travaux du Concile. Et c'est un peu par modestie, ce qui était conforme à sa nature, qu'il préférait que ça ne soit pas publié. Mais avec le passage du temps, puisque des décennies et des décennies ont passé, et puis cet universitaire s'y est intéressé, en fin de compte, il nous a semblé que c'était quelque chose auquel le cardinal de Lubac avait lui-même attaché beaucoup d'importance. Sans ça, il ne serait pas revenu y retravailler plusieurs fois. Et d'autre part, les personnages cités étant tous disparus, il nous semblait que maintenant, ça entrait plutôt dans le domaine de l'histoire.
Alors, pour que l'on comprenne bien, en effet, le père de Lubach a donc rédigé des cahiers de notes sur place pendant les sessions. Ça a duré 5 années et demie, vous dites, s'il n'avait pas voulu les publier, il se serait arrêté en cours de route. Après, il y a eu une version manuscrite, enfin une version dactylographiée de ces notes. Mais ces notes-là, on les a perdues, vous ne les avez pas retrouvées.
La partie manuscrite n'a pas été retrouvée, mais...
Mais on a la version dactylographiée, travaillée, retravaillée.
Non, il n'y a aucune. Il n'y a aucun doute sur l'authenticité de ces carnets. Il y a encore un petit doute sur la volonté ultime du père de Lubach de les publier ou pas. Sa notation négative date et certains observateurs pensent que, en fait, il souhaitait qu'il soit publié, mais je n'entrerai pas dans ce débat-là. Nous avons décidé, pour les raisons que vous avez vous-même rappelées, que c'était une bonne idée que de les publier et ça a été fait.
Alors, pour aller encore plus loin, monsieur de la Rosière, quel est l'intérêt de ces notes pour un lecteur contemporain ?
Alors, moi, je trouve que l'intérêt, il est double. D'une part, c'est un carnet qui raconte avec beaucoup de précision, d'ailleurs, de concision et aussi de clarté, les discussions, ce qu'on appelait les schémas, les réunions de la commission théologique, des sous-commissions et l'élaboration des textes conciliaires. Et donc, pour le lecteur d'aujourd'hui, qui est un peu loin de ces choses-là, c'est en fait une sorte de fil d'Ariane. Le père de Lubach est très didactique d'une certaine manière. Il explique ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il juge. Et c'est donc un guide pour le lecteur d'aujourd'hui. Et puis le deuxième intérêt, qui à mon avis prime le premier, c'est que c'est un témoignage personnel qui est important. Parce que le père de Lubach, qui avait été longtemps, rappelons-nous, victime de l'ostracisme et de son ordre et d'une manière plus générale de l'Église vaticane, venait un peu de sortir de l'ombre. On l'avait appelé comme expert au Concile, alors qu'il était encore, il y a très peu de temps, interdit d'enseigner et de publier des ouvrages de caractère théologique. Et donc, il n'est pas anormal que le père de Lubach s'exprime avec beaucoup de...
de
spontanéité sur un certain nombre de débats. Et alors, si vous permettez, j'en prends un petit exemple.
Par exemple, parce que montrer un peu sa force.
Alors par exemple, il n'aimait pas ce qu'il appelait le petit groupe de théologiens romains. Alors, je lis. Ils se disputent quelquefois entre eux, mais sur la base d'une mentalité commune, de réflexes communs. Ils savent leur métier, mais peu de choses en plus. On sent chez eux une certaine indifférence à l'égard de l'Écriture, des Pères, de l'Église orientale, un manque d'intérêt et d'inquiétude à l'égard des doctrines et des courants spirituels actuels, contraires à la foi chrétienne. Le résultat est un petit système scolaire ultra-intellectualiste, sans grande intellectualité. L'Évangile est plié à ce système, qui est l'a priori constant.
C'est un peu dur.
Oui, et il y en a des pages comme ça.
Il les accuse carrément de manque de culture, même religieuse.
Oui, c'est un peu dur. C'est pour ça peut-être que bon, il est bon de le publier.
Il aurait peut-être atténué, mais enfin, il l'a laissé.
Il est bon de le publier avec un certain retard. Mais c'est intéressant. Mais derrière ces annotations quelquefois un peu critiques, dont je viens de donner un exemple, il y a une préoccupation constante. Qui apparaît à travers tout le récit, dont c'est le leitmotiv, c'est que l'Église doit, par le témoignage de la foi, tenter de donner une réponse aux questions que se posent les hommes du monde d'aujourd'hui. Et on pourrait citer plusieurs passages de ce texte qui transcendent de beaucoup la simple description des débats conciliaires. Et peut-être que nous en viendrons à ce point lorsque vous m'interrogerez dessus.
Par exemple, effectivement, l'un des points très discutés, c'est l'athéisme. Faut-il ou non parler aux athées ? Faut-il parler de l'athéisme ? Et je crois que justement, le père de Lubach avait sur ce sujet une position très différente de celle du cardinal archevêque de Paris, Mgr Marty. Et il raconte cette... confrontation entre eux. Le cardinal Marty avait, lors d'une session, évoqué sa position à lui, qui était, je crois qu'on peut la résumer ainsi, l'athéisme ne rentre pas dans notre champ de réflexion.
Oui, c'était même Un peu plus grave que ça, parce que Mgr Marty, qui était à l'époque archevêque de Reims, avait, dans une proposition, dont il n'est pas sûr qu'il l'ait rédigée lui-même, il avait indiqué que « aucun athée, je cite, ne nie systématiquement Dieu, on ne doit voir dans l'athéisme rien d'autre qu'une occasion de purifier une foi supposée, toujours superstitieuse, un dialogue qui aurait lieu sur la foi en Dieu ou son contraire ne serait, selon lui, que discussion de système à proscrire. » Alors, le père de Lubac, qui était un grand théologien et qui avait écrit un livre admirable qui s'appelle « Le drame de l'humanisme athée », réagit à cette indication de Mgr Marty et il dit deux choses. Je cite « Quel qu'il soit, l'athée » rappelle le cardinal de Lubac dans les propos de Marty, ne nie pas systématiquement Dieu. Et Lubac dit « Cette proposition universelle avancée par le Mgr Marty est simplement fausse. Bien des athées la repousseraient et elle tend à nous ouvrir sans précaution à l'athéisme dont on célèbre les vertus. » Deuxièmement, ajoute-t-il, « Il est vrai que l'on doit bien distinguer d'une part l'ordre naturel et les espoirs humains, d'autre part l'ordre surnaturel et l'espérance chrétienne. » C'est ce que vous disiez vous-même il y a un instant. Mais, ajoute le cardinal de Lubac, si on transforme la distinction en dichotomie absolue, c'est la négation radicale de la pensée religieuse la plus profonde. En réalité, c'est en vertu de sa mission surnaturelle que l'Église a quelque chose à dire aux hommes, même pour ce monde, et peut apporter de l'aide à ce monde jusque dans ses problèmes naturels ou temporels. Le dualisme posé par l'intervention Marty revient à dire « Mettons-nous à l'école de l'athéisme, marxiste, pour organiser le monde à sa suite, nous lui demanderons seulement de nous laisser au fond de nous-mêmes une espérance pour l'au-delà. C'est la corruption de l'espérance chrétienne » et l'illusion progressiste à l'état pur.
Là encore, les mots sont forts.
Oui, les mots sont forts, mais il faut dire qu'ils sont rédigés le jour même et qu'ils comportent un peu de passion, ce qui est plutôt sympathique. Il y a une question, moi, que je me pose, si on en arrive un peu au terme de notre entretien, chère madame, c'est la question que le lecteur peut se poser aussi, c'est quel fut le rôle réel du cardinal de Lubac dans les textes qui sont sortis des débats conciliaires.
Oui.
Alors, sur cette question, le livre de Carnet, l'introduction et les notes, laisse le lecteur quelque peu sur sa faim. En réalité, Henri de Lubac était un homme modeste. Il intervenait assez peu. Ce que j'ai cité de lui, ce ne sont pas des interventions, ce sont des réactions.
C'est ses jugements personnels,
oui,
ce sont ses jugements à lui.
Cependant, quand on lit avec un peu d'attention les carnets du Concile, on voit que le père de Lubac rencontrait beaucoup de monde, beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres, beaucoup de théologiens. Et je pense que son influence a été réelle, mais probablement plus indirecte que opérationnelle. Mais c'est un ouvrage important qui donne un éclairage assez nouveau, et c'est pour ça qu'il est actuel, sur les travaux du Concile. Et je crois qu'avec la publication déjà faite des récits du père Congar d'une part et de celui de Don Helder Camara de l'autre, les éditions du CERF achèvent ainsi une trilogie qui est indispensable à la compréhension du Concile pour les historiens, mais aussi pour les laïcs qui s'intéressent.
Pour les chrétiens qui s'intéressent, ou pour les autres qui s'intéressent.
Oui, qui s'intéressent à cette partie de l'histoire
religieuse.
Donc on peut
dire que c'est une source historique, les carnets du Concile du père de Lubac, mais ce n'est néanmoins pas une source officielle.
Non, tout à fait.
Là encore, ce sont personnels.
C'est personnel.
Son affaire personnelle.
Ouais.
Et j'ai trouvé une bonne formule de M. Loïc Figoureux dans son introduction. C'est donc l'agrégé d'histoire dont vous parliez de l'Université de Lille et qui a fait sa thèse sur ces carnets du Concile. C'est une plongée dans le bouillonnement théologique du Concile. Et c'est vraiment l'impression que l'on a quand on lit ces carnets. C'est qu'il y a énormément de gens cités, de jugements prononcés, de formules latines traduites, Dieu merci. Enfin, il y a un bouillonnement. Et on voit bien que tout le monde n'était pas d'accord, que les idées se sont affinées petit à petit. Elles ont pris naissance pour s'affirmer dans des textes officiels, ce qui a été difficile.
Oui, et ce qui est intéressant, vous avez parfaitement raison de rappeler ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, le cardinal de Lubac a été interdit d'écrire et d'enseigner en matière de religion parce qu'on le trouvait trop novateur, on le trouvait à la limite de l'orthodoxie et il était considéré un peu comme un moderniste. Et puis, lorsque il s'est plongé lui aussi dans les affaires du Concile et que le Concile a donné l'occasion à beaucoup de nouveaux modernistes de s'exprimer, le cardinal de Lubac, paradoxalement, a été vu comme un élément conservateur, un élément trop attaché à la tradition des pères de l'Église. Et donc, c'est assez intéressant.
Oui, de ce retournement de regard.
De voir ce retournement.
Absolument. L'édition des carnets du Concile du cardinal Henri de Lubac fait l'objet de deux volumes réunis dans un très beau coffret et publié par les éditions du CERF. D'autres émissions dans la médiathèque de Canal Académie sont consacrées au cardinal Henri de Lubac de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur de la Rosière, merci beaucoup.
Merci à vous.